ce midi au Radio-Journal. Que reste-t-il à apprendre du budget fédéral? La réponse finale dans quelques heures. Et octroi de contrat à la firme McKinsey, le fédéral n'a pas respecté les règles selon un ombudsman fédéral. Bonjour, ici Jean-Sébastien Bernacchi. La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, va déposer son budget en fin d'après-midi à la Chambre des communes. L'exercice promet bien peu de surprises cette année après les nombreuses annonces du gouvernement Trudeau dans les trois dernières semaines. Comme l'explique Juliane Lapointe, il ne reste principalement qu'à connaître l'ampleur du déficit.
On s'attend à ce que le déficit soit plus élevé que prévu. Le mois dernier, le directeur parlementaire du budget avait évalué qu'il devrait atteindre presque 47 milliards de dollars pour 2023-2024, soit 7 milliards de plus que ce que prévoyait le gouvernement l'automne dernier. Et on l'a vu, il y a eu une pluie de nouvelles dépenses annoncées au cours des trois dernières semaines qui dépasseraient les 18 milliards de dollars, ce qui pourrait accroître le déficit. Ce sera donc de voir cet après-midi quelle est l'ampleur du déficit et quel est le plan du gouvernement pour rééquilibrer le budget. Pour générer des revenus, Ottawa a l'intention d'imposer davantage les plus riches et de mettre en place de nouvelles mesures fiscales pour les grandes entreprises. Les libéraux interrogés ce matin sont restés vagues sur le contenu du budget. On peut entendre Jean-Yves Duclos et Jonathan Wilkinson.
Il y a beaucoup de gens plus aisés qui nous disent que c'est important d'investir pour aider ces familles.
C'est important que toutes les entreprises, tous les secteurs paient leur partie.
Les partis d'opposition s'attendent déjà à être déçus. Le Bloc québécois a dit qu'il n'allait pas appuyer le budget fédéral. Les conservateurs ont des conditions pour les libéraux, dont celle-ci qu'a répété encore le chef conservateur Pierre Poilievre ce matin.
Chaque dollar de nouveaux dépenses doit être accompagné avec un dollar d'économie pour équilibrer le budget.
La ministre des Finances, Chrystia Freeland, va déposer son budget à 16 heures. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa.
Toujours au chapitre de l'économie, il y a eu un léger rebond de l'inflation au pays en mars. L'indice des prix à la consommation est passé d'une année à l'autre de 2,8 % en février à 2,9 % le mois dernier. Les prix de l'essence, du logement et des services ont contribué à cette hausse d'un dixième de point. Le bureau de l'Ombudsman de l'approvisionnement à Ottawa conclut que le gouvernement fédéral n'a pas respecté toutes les règles et bonnes pratiques lorsqu'il a octroyé certains contrats au cabinet conseil américain McKinsey. Thomas Gerbet a pris connaissance du rapport publié hier dans ce dossier.
L'Ombudsman Alexander Jeglitsch a passé au crible 10 ministères et agences du fédéral pour déterminer s'ils ont respecté les règles et les lois en signant des contrats avec McKinsey. Son rapport constate des changements de stratégie d'approvisionnement pour permettre la participation de la firme. Il note l'absence d'estimation des coûts avant d'entamer des discussions avec le cabinet conseil. Il évoque aussi une réévaluation des offres de manière à ce que McKinsey soit finalement seul soumissionnaire conforme et qu'elle obtienne le contrat. L'Ombudsman écrit que cela donne une forte impression de favoritisme et constitue une menace grave à l'équité. Une enquête de Radio-Canada avait démontré que le recours à McKinsey avait fortement augmenté sous le gouvernement Trudeau, surtout après 2019. La firme a conseillé la Défense nationale, Immigration Canada, l'Agence des services frontaliers ou encore la Banque de développement du Canada. Une offre à commande avait même été signée avec McKinsey pour permettre des services en informatique jusqu'à la fin du siècle, en 2100. Ottawa a déjà accepté de revoir ses pratiques. Le gouvernement Trudeau a également réduit ses dépenses en consultants. De son côté, McKinsey a toujours affirmé avoir respecté les règles en vigueur. Une autre enquête de la vérificatrice générale est toujours en cours. Ici Thomas Gerbert, Radio-Canada, Montréal.
Le gouvernement ontarien va investir 1 milliard de dollars pour prolonger la durée de vie des plus grands barrages hydroélectriques de l'Ontario. Le projet prévoit notamment la remise en état des centrales Sir Adam Beck 1 et 2 situées le long de la rivière Niagara. La quasi-totalité des unités de production existantes des deux centrales doivent être remplacées par de nouveaux équipements. Le cabinet de guerre d'Israël s'est à nouveau réuni aujourd'hui pour parler d'une éventuelle riposte contre l'Iran. L'État hébreu affirme qu'il y aura des représailles à l'attaque iranienne lancée samedi soir, mais le moment et la teneur de la réponse restent à déterminer. Pendant ce temps, des alliés des deux pays continuent d'appeler à la retenue. Éric Plouffe a préparé ce qui suit.
We cannot Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression, lance le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari à propos de cette attaque lancée par l'Iran contre Israël. Lors d'une visite organisée pour les journalistes sur une base militaire dans le sud d'Israël, il a ajouté que son pays répliquera au moment, à l'endroit et de la manière qu'il aura choisi. Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part mis en garde Israël et l'Iran contre les conséquences catastrophiques de toute nouvelle escalade lors d'un entretien avec son homologue iranien Ebrahim Raisi. Les États-Unis ont pour leur part prévenu qu'ils n'hésiteraient pas, avec leur allié, à renforcer les sanctions envers l'Iran. Pendant ce temps, la guerre se poursuit à Gaza, toujours menacée par la famine.
Israel continues to impose unlawful restrictions.
Les Nations unies ont dénoncé le fait qu'Israël impose toujours des restrictions illégales sur l'acheminement d'aide humanitaire dans ce territoire assiégé depuis plus de 6 mois.
There must be an immediate ceasefire.
Il faut un cessez-le-feu immédiat, a répété l'ONU par l'intermédiaire d'une porte-parole, Ravina Hamdassani, la libération de tous les otages, et il faut aussi que l'aide humanitaire puisse être acheminée immédiatement sans restriction dans la bande de Gaza. Éric Plouffe, Canada, Montréal.
Salman Rushdie publie ces jours-ci un livre sur l'attaque au couteau qui a failli lui coûter la vie. L'auteur des versets sataniques a été poignardé à une conférence littéraire aux États-Unis en août 2022, plus de 30 ans après avoir été menacé de mort par le régime iranien. Il a perdu l'usage de son œil droit à la suite de cette agression. Voici le reportage de Sébastien Baer.
C'est le livre qu'il n'aurait jamais voulu écrire, le récit de ses 27 interminables secondes et de ses 12 coups de couteau au visage, au cou, à la poitrine et à la main. À la foire du livre de Francfort, le romancier de 76 ans avait comparé son roman à un exutoire.
Ce que j'ai vraiment ressenti, c'est qu'il était impossible d'écrire autre chose tant que je n'aurais pas évacué ce sujet. Je suis heureux d'être encore là pour le raconter, mais il s'en est fallu de peu.
Héliporté à l'hôpital, Salman Rushdie a été opéré pendant 8 heures avant de passer 6 semaines en convalescence. Le romancier conserve de lourdes séquelles et a notamment perdu la vue de l'œil droit. Sur la chaîne américaine CBS, il est revenu sur son attaque et a lu un extrait de son roman.
Dans le coin de mon œil droit, la dernière chose que mon œil droit verrait jamais, j'ai vu l'homme en noir courir vers moi. Vêtements noirs, masque noir. J'avoue que j'avais parfois imaginé mon assassin se lever dans un forum public ou autre et venir me chercher de cette manière.
Jamais, tout au long des 272 pages de son roman, Salman Rushdie ne cite le nom de son agresseur, il se refuse également à l'évoquer en interview.
Lui et moi avons eu 27 secondes ensemble. C'est tout. Je n'ai pas besoin de lui donner plus de mon temps.
Salman Rushdie a bien l'intention de continuer à participer à des événements publics. Je ne veux pas d'une vie confinée, affirme-t-il. Je veux vivre ma vie.
C'était Sébastien Baer. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné son aval à une loi qui vise à regarnir l'armée de son pays. Le texte législatif est toutefois contesté, puisqu'une clause qui prévoyait la démobilisation des soldats après 36 mois au front a été supprimée à la dernière minute.